Est-ce qu'on se fait un petit thé? Alors, ça enregistre ou pas?
Oui, ça enregistre.
Ouais. Ce podcast, ça s'appelle pas « Nous inventons le podcast ».
Non, ça s'appelle « Un podcast de dragons et de romance ».
Ouais.
Écoute, j'ai lu quand même un quart de mes livres.
En fait, tu peux pas dire c'est la meilleure saga de la Terre, mais ça commence au tome 4, c'est pas plus. Hein.
Tout ça pour ça, quoi.
Voilà.
En vrai, on n'est pas au moins 18, non? Le podcast, je vais être vulgaire,
oui, tu peux.
Il peut aller te faire enculer.
Là, c'est de la mauvaise foi.
Certes. Ouh, accrochez-vous. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. J'aime quand c'est bien écrit.
Et des fois, on arrivera plus à aller on the point, nous verrons bien.
Yay!
Youhou!
Let's go! Je dois commencer par quoi déjà? Bienvenue dans un podcast de dragons et de romance.
Moi, c'est Coralie, aka Lecture des Lunes.
Et moi, c'est Laurie. Aka Laurie Lee Fantasy.
Wouh! Tout récent, tout récent.
Tout récent, toi. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler d'Onyx Storm.
On risque de spoiler. Je pense qu'il
y aura du spoil.
Il y aura clairement du spoil.
Si vous voulez pas du spoil,
je crois
partir.
Qu'il faut attendre d'avoir lu Onyx Storm pour venir écouter ce podcast.
C'est clair. Et là, tout le monde se demande, mais comment c'est possible? Il est même pas encore sorti.
Eh ben, on le lit en anglais.
On l'a lu en anglais. Et oui, grâce à nous, vous pouvez avoir des reviews en avance, parce qu'on ne sait pas attendre.
Non, clairement. Et celui-là, moi, vraiment, j'aurais trop peur de le lire en VF. Hein. Je sais pas comment il est traduit, mais il y a beaucoup trop de fuck et fucking. Et
c'est vrai.
Vraiment, moi, les livres qui arrêtent pas de dire putain, ça m'agace. Donc, s'ils n'ont pas trouvé d'autre façon de traduire ça, à me tendre.
Ouais. Bah, je te dirais, parce que du coup, moi, je les achète en français. Une fois qu'ils sont reliés. Donc, je pense me faire une relecture en français pour ensuite un peu évaluer cette VF.
Ben, volontiers, un avis. D'ailleurs, moi, je crois que j'ai quand même le tome 1 en VF. Du coup, j'essaierai peut-être aussi de lire le tome 1. La Skip, il n'est pas très bien traduit. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'il y a la traduction.
On fait la lecture en même temps.
Allez, je suis très, très chaud. Ça, on va rager sur la VF ensemble.
Oh oui, donc un petit thread.
Ok, donc on a décidé de commencer ce podcast un peu spécial sur Onyx Storm en vous donnant un petit peu de contexte sur nos opinions déjà concernant le 1 et le 2. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse commencer sur ton take sur Force Wing et Iron Flame.
Alors, j'ai adoré Force Wing. J'ai détesté de toute mon âme. Très profondément, j'ai adoré Liam jusqu'à ce qu'on le tue sauvagement. Je ne m'en suis toujours pas remise et je ne m'en remettrai sûrement jamais. Et par contre, moi, j'aime pas Xeidon, mais alors pas du tout, jamais. Et je trouve qu'on le fait passer pour un prince charmant qu'il n'est pas. Et je suis assez d'accord avec la mère de Violette pour le coup.
Elle a des super punch dans le troisième livre là-dessus. J'ai adoré.
Incroyable.
Je les ai mis exprès dans ma chronique en pensant fort à toi. Oh, j'ai trop vu.
Je les ai vus. Autrement, je trouve que Rebecca Yarros, elle est vraiment très très forte pour avoir réussi à juste maîtriser cet environnement qui n'existe nulle part. Et c'est un univers giga riche. Et on s'en mêle le cerveau. Et rien que pour ça, c'est trop, trop top. L'univers est cool.
Ouais, et les dragons.
Et les dragons. Je pense que j'ai vu sur les réseaux des gens comparer en disant que c'est le Harry Potter de notre génération. Et je pense qu'en vrai, on n'est pas très loin.
Ouais, je pense que le seul truc, c'est que c'est vraiment... Enfin, là où Harry Potter, elle fait un peu une masterclass parce qu'il va intéresser... Et les adultes et les enfants à Force Wing, je pense pas qu'ils soient tout public. Vraiment pas contre le fait que des adolescents lisent du smut. Moi, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, je suis pas sûre. Enfin, je pense quand même qu'il est complexe pour les plus jeunes. Il faut pouvoir suivre les intrigues. Il y a énormément d'éléments d'information et tout ça. Je pense que
Disons, c'est le Eragon de notre
pour des
génération.
grands adolescents, pourquoi pas. Mais ouais, le Eragon plus que peut-être le. Et mais moi, je trouve qu'il est plus quali que Eragon, par exemple.
Large.
Là où je trouve que Eragon devient de plus en plus quali avec l'expérience que prend l'auteur, parce qu'il faut pas oublier qu'Eragon, il avait 16 ans quand il écrit le premier, l'auteur. Je trouve que il est plus quali qu'Eragon, et justement ça fait, enfin du coup mon take sur Force Wing Iron Flame, moi ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas fait embarquer comme ça sur un livre où il y avait des dragons, des, enfin il m'a vraiment fait revenir à la fantasy, et puis maintenant je prends trop de plaisir à relire beaucoup de fantasy là où j'avais vraiment fait une espèce de pause, et franchement il est très quali pour la fantasy, surtout pour une autrice qui n'écrit pas de fantasy.
C'est ça, pour
à la base.
À la base, édité en français chez Hugo New Romance.
Grave.
C'est une putain de bonne fantasy.
Bah ouais, ouais.
C'est vraiment, c'est au-delà de juste, vous allez le lire parce que vous aimez la romance, vous allez peut-être le commencer parce que vous aimez la romance et que vous êtes curieux, mais l'univers est incroyable.
Ouais, les intrigues, les... Tout ce qu'elle a réussi à faire autour des dragons est vraiment hyper cool. Enfin, moi, ma relation vraiment préférée, c'est celle entre les riders et les dragons. Je trouve trop intéressant. En plus, elle arrive vraiment à nous montrer que ça dépend vraiment du caractère du dragon et du rider, parce que la relation que Violette elle a avec les dragons, c'est vraiment pas la même que Riddock avec son dragon.
Ouais.
C'est vraiment pas la même que Mira avec le sien. Enfin, c'est vraiment... On voit... toutes les la palette de nuances de
et
relations.
Elle se fait la réflexion d'ailleurs souvent dans le 3, oui. Justement ouais. En disant je comprendrai jamais la relation des autres avec leur dragon.
Et du coup, c'est vraiment cool. Dans le 3, c'est vrai qu'elle développe vraiment ce côté-là. C'est peut-être pour ça qu'il s'est frais dans ma tête et que c'est ça que j'ai beaucoup. Mais du coup, moi, j'ai adoré et Force Wing et Iron Flame. Je trouve Xadon vraiment très sexy. Je ne dis pas qu'il n'est pas problématique. Je pense vraiment qu'il y a des aspects de cette romance qui... Je ne sais pas si j'irais sur problématique, mais qui, en tout cas, si ce n'était pas dans une fiction, on ne serait peut-être pas
aussi... On aurait levé des red flags.
Il y en a quelques-uns.
On aurait levé des red flags.
En même temps, dans cet univers-là, c'est intéressant de voir une relation comme ça se créer.
Ce n'est pas des méchants red flags non plus.
C'est ça.
C'est juste que... Je ne trouve pas plus très honnête.
Mais moi, je trouve que ça a toujours du sens quand il n'est pas honnête, en fait. Et puis, du coup, j'aime bien le fait qu'on n'est pas... on n'idéalise pas un gars. Il n'est pas parfait. Il fait des erreurs. Et puis, en même temps, à côté de ça, ben, on sent une forme de sincérité dans sa relation avec Violette. Et puis, ben, ce n'est pas pour rien que... J'arriverai jamais à prononcer le nom de son dragon, Sgaël.
Non, je l'appelle Sgaël.
Sgaël, voilà.
Ouais.
Elle l'a choisi. Enfin, c'est intéressant de voir le caractère de Sgaël et puis celui de Xadon qui vont franchement très très bien ensemble pour le coup. Et je trouve que dans le 3, justement, on nous donne des éléments de réponse sur des aspects de sa personnalité qui étaient assez bienvenus. Donc, moi, je n'ai rien contre Xadon. Donc, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un. C'est sûr.
Je suis la target. Insultez-moi en commentaire, mais gentiment, s'il vous plaît.
Restez poli.
Restez poli.
Oui.
Vous pouvez m'appeler la détesteuse de Xedon.
Et donc, voilà. Et du coup, moi, je n'avais pas été déçue de Iron Flame. J'avais quand même trouvé sympa, bien que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans leur relation et qui étaient un peu agaçants. Et j'ai été... très contente du coup de Onyx Storm parce que on a plus ces longueurs.
Oui. Ah oui, il y a ce truc en fait dans Iron Flame de il faut dire le secret, non, il faut pas dire le secret. Il faut dire le secret, non, mais il faut pas dire le secret. D'accord, on dit le secret, mais en fait, on le dit pas. Ah comment dire juste c'était agaçant parce que c'était très agaçant et j'ai presque eu peur vraiment. J'ai eu peur avec Onyx Storm quand il découvre les îles et que Riddock découvre le poteau rose de Xedon qui est en train de se transformer en vénine et où il commence à lui faire la tête et du coup où on forcément se souvient de Riddock qui est la personne qui a fait le plus la tête à Violette suite à toutes ces « je dis pas la vérité ». Et là, je me suis dit, oh non, pitié. Oh non, pitié. Il reste encore une moitié de livre. J'ai eu vraiment très, très peur. Et en fait, ça s'est calmé absolument instantanément. Et j'ai été très soulagée. Parce qu'en fait, finalement, tous les personnages ont appris.
Oui.
Et ça, c'est encore une autre force, je trouve, de Rebecca dans cette série. C'est que quand un personnage, il apprend quelque chose, il l'a vraiment appris.
Mm-hmm.
Et après, il l'applique. Ouais. Et ça, je trouve hyper bien fait. Même si nous, en tant que lecteurs, on a un petit doute quand même, parce que les humains, voilà.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Dès qu'il y a une situation qui est résolue, elle est pleinement résolue. Et ce personnage-là, il passe à autre chose. Mm-hmm. Et on régresse très peu, ce qui est franchement super agréable. J'ai eu les mêmes craintes que toi. Mais en fait, du coup, comme dans le 2, on nous a un peu traumatisé là-dessus, moi, tout le long du 3, j'étais là, ah, c'est quand qu'ils vont être complètement déraisonnables. Et c'est vrai que je trouve aussi assez intéressant, on fait un passage dans la maturité. Il ne faut pas oublier que les personnages, au début, ils sont quand même très jeunes, parce qu'a priori, ils rentrent dans un cadran qui est un peu l'équivalent d'une école, finalement.
C'est un lycée, quoi.
Voilà. En fait. Donc, c'est assez intéressant de les voir. Là, on sent qu'ils ont pleinement grandi. On sent que les efforts de guerre, ce qu'ils vivent avec la guerre, ce qu'ils vivent avec les morts autour d'eux, avec le fait de ne pas savoir jusqu'où leur vie va pouvoir bien pouvoir aller. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ça les fait grandir très vite. Et là, on a des adultes. On a des adultes qui se battent. On a une Violette qui, pour le coup, dans le 3... Est consciente de sa puissance et de sa valeur, là où dans les deux premiers, elle est beaucoup moins assise dans qui elle est et dans. Elle ose beaucoup moins, je pense, demander, exiger.
Ouais.
Des choses.
Oh, mais il y a des scènes incroyables! Je pense que c'est mes scènes préférées du livre.
Hein. Et ouais, là, j'ai trouvé Violette beaucoup moins chiante et beaucoup avec une vraie assise. Et les scènes où elle prend le lead et elle est pleinement là et elle a calculé son coup, ils sont jouissifs, quoi.
Il faut qu'on fasse un compteur. J'ai pas compté. Je me dis que maintenant, je regrette un peu. Faites un compteur si vous le lisez. Il faut qu'on fasse un compteur du nombre de personnes qu'elle envoie chier. Donc, parce que c'est... Dragon y compris.
Ah ouais.
Dragon y compris.
Non, c'est très plaisant.
La mère de Xédon y compris. Oh mon dieu, cette scène incroyable.
Mais du coup, moi, c'est vraiment en lien avec la mère de Xédon que je trouve qu'on a vraiment eu des éléments de réponse sur des traits de personnalité de Xédon. Je trouve que ça... Mais vraiment, enfin, tout ce qu'il a, il vit dans cet endroit-là où tu sens qu'il est... vraiment pas loin d'abandonner toutes ses émotions juste pour plus ressentir cette espèce de gouffre de l'abandon qu'il a vécu avec sa mère. En fait, t'es là, ah bah oui, tout c'est clair, vraiment.
Tout
s'explique dans sa difficulté à dire la vérité à Violette au début parce qu'il a peur que ça déclenche des chaînes d'événements sur lesquels il n'aura plus de contrôle. Son besoin excessif de contrôler tous les aspects et les pans de sa vie parce qu'il a l'impression, enfin, parce qu'il n'a pas réussi à contrôler le truc le plus important à un moment donné, c'est super intéressant. Et c'est vraiment, je trouve qu'elle a très bien montré tout cet aspect-là, sa personnalité. On a vraiment un enfant face à sa mère ces scènes-là.
Il y a ça, et puis aussi, je trouve que du coup, on déconstruit aussi l'image de Fenn Ryerson qui est en fait un super-héros et qui est le père parfait parce qu'en fait, putain, c'était un peu un connard quand même.
Ouais.
Parce que il a juste fait une alliance pour avoir un héritier et puis qu'ensuite il a fait une rébellion sans penser à ce que ça pouvait impliquer pour lui et pour son pays, etc., etc. Et du coup, il a laissé son fils et une descendance pauvre, quoi, vraiment juste... comme ça. Et du coup, ça, j'ai trouvé aussi hyper intéressant parce que je sais pas si Xédon a déjà fait ce travail-là de voir son père de cette manière-là, mais en tout cas, Violette, elle le voit clairement. Mmh. Elle le dit pas, mais elle le voit clairement. Si on le voit, je pense qu'elle le voit aussi. Mmh. Mais...
Mais ça a déconstruit vraiment. Enfin, en fait, c'est vrai que c'était très mystérieux. On savait que son père avait été exécuté dans le cadre d'une rébellion. On savait pas vraiment tous les tenants et les aboutissants. C'est vrai qu'on avait très peu d'éléments sur sa mère. On savait même pas vraiment qu'elle s'était barrée volontairement. Enfin, on savait qu'elle avait disparu du tableau.
Parce qu'il le mentionne.
Voilà.
Mais on sait
pas du tout le contexte autour de ça. Ni comment il l'a vécu, en fait.
Oui.
Et vraiment.
On se doute quand même.
On, on se doute.
Parce qu'il est un peu là, genre...
on n'a pas... Enfin, en fait, il est tellement tout le temps dans le contrôle de ses émotions. Et en fait, tout ce livre où il n'a plus le contrôle de ses émotions et où, en fait, on a vraiment accès à lui de façon beaucoup plus...
Brute.
c'est super intéressant. Et vraiment, là, on voit, en fait, toute la portée que ça a eu sur lui. Et ça explique vraiment tout ce côté très contrôlant qu'il peut avoir, qui est un peu agaçant, par moments.
En vrai, ça va, je trouve, encore. Parce que Violette, elle a aussi une maîtrise encore sur lui qui est... Du coup, je trouve presque touchante à chaque fois. Parce qu'il y a ce truc de « je le connais trop bien, je sais que là, il est sur une pente glissante. Et je sais que moi, je peux le ramener. » Et ça, j'ai trouvé que c'était assez cool. Et puis même, il y a des fois juste l'enchaînement est trop drôle avec les commentaires de Riddock. Moi, c'est tout ce que je veux dans un livre. Vraiment, Riddock qui fait des commentaires. J'ai surligné plein de passages des interventions de Riddock. Mais mon Dieu, incroyable. Quand Zedane, il envoie chier le roi, etc. Et Alden en mode non, je vais ouvrir mes frontières et vous allez vous faire enculer. Et puis Yerida qui est là, boom, that's a show. T'es juste genre, ok, c'est bon. Moi aussi, Yerida, je regarde ce show comme toi, vraiment, j'adore ça.
Bah ouais, vraiment. Alors, les stars, moi j'ai trouvé du troisième livre, c'est les personnages secondaires. Elle a fait un super boulot de nous les remettre en valeur. Parce que, en fait, Moi, le problème que j'ai eu avec les personnages secondaires, c'est que dans le 1, les personnages secondaires très importants, c'est Liam, en fait. Et c'est toute la relation avec lui. Pardon. Et du coup, c'est d'une tragédie sans nom qui meurt. Et dans et le 2... Et Rhiannon.
Hyper important, en vrai.
Mais quand même moins traité, finalement. On a tous les aspects de sa relation avec Violette, mais qui est Rhiannon au-delà de sa relation avec Violette? On a peu d'éléments. Celui où on avait vraiment des éléments sur sa personnalité, sur qui il est en dehors des personnages qui nous concernent, c'était Liam qui est mort dans le 1. Ensuite, dans le 2, on a tellement tout ce débat autour de est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on leur dit pas, dadadi, dadada, qu'en fait, ils passent complètement au second plan et on les traite très très peu.
Sauf
les personnages secondaires.
Encore une fois. Rhiannon,
toujours.
Mais elle est leader, en fait.
Mais toujours dans sa relation avec Violette. Oui. Et toujours dans sa relation avec Violette. Jamais vraiment sur pleinement qui elle est.
C'est vrai.
Et là, dans le 3, ils sont vraiment là. On a des interactions entre eux qui ne concernent pas que les personnages principaux. Ils font plus que figuration, en fait, je trouve.
Oui.
Particulièrement cette espèce de famille choisie. Enfin, je pense qu'on est vraiment autour de ce trope-là quand ça concerne Riddock, Sawyer, Rhiannon, Violette. Et oui, c'est ça. Et puis, je trouve que Riddock est super bien mis en valeur. Mais Myra aussi.
C'est vrai.
Moi, Myra, ma star aussi. Hein.
Elle est
m'a
géniale.
Fait trop, trop rire.
Oh, quand elle met un coup de pied dans les couilles à Drake.
Ah. Et ça, je pense qu'on va avoir une petite romance entre eux, mon humble ami.
Ah ouais, moi aussi. Oh, d'ailleurs, du coup, je voulais te poser la question. Et ça, je pense que ça va être hyper, hyper cool. Et je pense qu'on pourra le refaire pour quand on fait des épisodes spéciaux comme ça. C'est est-ce qu'il y a des trucs que tu as pré-shot et qui étaient justes? Et oui. Quand tu l'as pré-shot et quand tu l'as découvert?
Ouais, alors hyper intéressant parce que j'ai pré-shot Brennan. Vraiment, j'ai pré-shot quelque chose, à mon avis, qui va être vrai.
Mort
oui, ça, j'avais pré-shot de ouf. Qu'est-ce que j'ai pré-shot? Vas-y, dis-toi, je vais essayer de...
spécifiquement dans Onyx Storm, quand ils sont justement dans la maison de la mère de Xidon, dans l'île, je sais plus quelle île, Zinal, bref, du dieu Zinal, ils parlent justement des relations...
Zinal, c'est la chance, c'est c'est là où il s'est pris une
l'autre,
flèche.
C'est l'autre. C'est je sais plus. Justement. C'est pour ça que c'est pour ça que ma langue a fourché. Mais bref, à ce moment-là, il y a Xidon. Enfin, on reproche à Xidon de pas avoir fait une alliance et de pas s'être marié en fait, concrètement avec Kat, parce que du coup, voilà, c'était censé être le comment on dit en français, la truc intelligente. à faire, c'était de se marier pour justement ses affaires de noblesse et compagnie. Et lui, il dit ouais, je veux me marier, mais avec Violette et tout. Enfin bref. Et du coup, ça lance une discussion. Et du coup, on reproche la même chose à Kat en mode oui, bah quand même, t'es là, t'es en ligne, etc. Faut bien que tu te maries avec quelqu'un. Et puis là, elle dit après, on avait un peu spoté qu'il se passait un truc avec Trager parce qu'il y avait des petits sourires, des trucs. Et puis, c'est un peu appuyé, on va pas se mentir. Par Violette en mode ah oh, tiens Kat elle sourit à un homme autre que Xaydan, oh mon Dieu. Du coup à ce moment-là on est tous à peu près sûrs qu'il va se passer un truc. Et là du coup Kat avoue que elle est dans une relation et qu'elle est très heureuse, et à ce moment-là j'ai dit
Il va mourir.
il va crever, il va crever. Chapitre
Ah
suivant,
ouais, j'y ai pas pensé du tout.
chapitre suivant, il crève.
Ouais.
En plus, j'étais encore plus sûre de moi parce qu'il y a ça, et juste avant, quand ils sont sur le balcon avec Zayden et qu'il les voit marcher sur la plage, Zayden dit, ouais, ça m'étonne pas, Trager, ça fait un moment qu'il est sur elle, en sous-entendant des années. Et du coup, quand Kat, en plus, elle, justement, elle dit ça, là, j'étais vraiment juste persuadée, en mode, ok, désolé Trager, mais tu es le next. C'est vrai que dans toute cette première partie, il n'y a pas grand monde qui est mort. Tu es le premier d'une longue liste. Voilà.
Ouais, en vrai, moi j'avais pré-shot pas mal de trucs qui ont aussi été pas mal faux. Parce que j'avais pré-shot que le deuxième signet de Violette serait en lien avec sa relation aux morts. Parce que je trouvais dans. Moi, je reste convaincue qu'il y a une scène chelou dans
Un
le 2.
truc, ouais.
Pour moi, la scène où elle voit Liam dans le 2, où elle parle avec Liam qui est mort dans le tome 1, pour ceux qui nous écoutent sans avoir vraiment le contexte. Elle est trop bizarre. Et elle est d'autant plus bizarre que dans le 3. Moi, tu sais quoi? Je vais plutôt faire mes prévisions.
En fait, j'ai une explication à ce fail de pré-shot.
Ouais, ok, vas-y.
Donc
Alors, attends.
fini et après.
Pour moi, cette scène, elle est très très bizarre. Elle discute avec Liam. Vraiment, on n'arrive pas trop à se dépatouiller de savoir si c'est dans sa tête parce qu'elle hallucine, parce qu'elle est dans la douleur la plus totale, ou si cette scène, elle est réelle. Mais par contre, on a un reminder dans le 3 de cette scène parce que elle descend dans les geôles voir Jack Barlow et il lui dit qu'il sent encore toute son énergie dans cette pièce, toute sa souffrance qu'elle a vécue dans cette pièce. C'est pas du tout anodin! Et moi, je me suis dit, mais c'est sûr et certain qu'il y a son deuxième signet, c'est en lien avec les personnes décédées d'une façon ou d'une autre, ou hein, une espèce de pouvoir de les ramener à la vie ou de discuter avec eux, ou. J'arrivais pas à te remettre la main dessus, mais pour moi, il y avait un lien avec ces scènes-là. Ça n'a pas été du tout le cas. En fait, finalement, elle peut se balader dans les rêves. Bon,
Voilà.
voilà.
On apprend du coup dans Onyx Storm que le deuxième entre guillemets signet de Violette, c'est du coup de se balader dans les rêves. Sauf que on nous dit aussi que Andarna n'est plus là et qu'elle se balade quand même dans les rêves. Elle n'a plus le pouvoir d'Andarna à ce moment-là et elle continue de le faire parce que, à mon avis, elle n'a pas deux signets, elle en a trois. Et que le signet du Dreamwalker n'est pas en lien avec Andarna.
Ah, donc tu penses que c'est Terne aussi qui lui a donné celui-là?
Ou autre chose, parce qu'il y a aussi toutes les choses qu'on a découvertes par rapport à Violette elle-même, par rapport à ses cheveux, par rapport à une Brielle et par rapport à Dune. Bref, le fait que son daron, il l'a transporté dans, dans la moitié du monde pour essayer de trouver une solution à. Et faire en sorte que sa fille, elle vive bien, contre l'avis évident du reste de la famille. Ce qui explique pourquoi ils s'entendaient plus trop au bout d'un moment. Et du coup, ça explique aussi les cheveux gris, enfin les cheveux argentés de Violette, pardon. Et donc, je pense qu'il y a d'autres choses. Et manifestement, à mon avis, si les dieux existent réellement, parce que en plus, dans ce tome-là, on nous montre bien la mythologie, on commence à bien connaître les dieux autres que Malek, qui est le dieu de la mort. Voilà, accessoirement.
Qui est le seul dont on parle dans le 1.
Voilà,
Bonne.
et dans le 2, hein, finalement aussi.
Ouais,
Hein.
c'est vrai.
On parle un petit peu ponctuellement des autres, mais c'est vrai que dans celui-là, on va vraiment parcourir du coup des civilisations qui, du coup, suivent un dieu précis à chaque fois, et donc on voit un peu leur coutume. Et c'est la chance qui fait que Trigger meurt. Mais bon, à part ça, c'est horrible. Et vers la fin, elle se redit en plus telle personne est morte parce que, enfin, Liam est mort à cause de machin, telle personne, je sais plus qui, est morte à cause de tel truc, et Trigger par chance. Et là, vraiment, ça te tue déjà, t'es là, genre, fallait que tu recites Liam. Mais en plus, ah non, c'est trop chiant, bref. Mais en tout cas, il y a tout ce truc, je pense que les dieux existent d'une manière ou d'une autre, pas nécessairement en tant que dieu comme on se l'imagine, mais en tout cas, je pense que dans cet univers-là, ils existent et qu'ils ont vraiment une influence. Parce que je pense sincèrement que Violette, elle est protégée par Dune. Il y a beaucoup de choses qui font que elle aurait dû mourir dès le départ, et elle le dit elle-même dans le premier livre. Il n'y a pas moyen que je survive. Et elle est toujours là.
Et elle a eu quand même une sacrée chatte avec le dragon qui l'a choisi, parce qu'elle s'est vraiment fait choisir par
Par
le dragon le plus
The
badass
Dragon.
du continent, hein.
Donc, ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de coïncidences pour qu'au final, c'en soit une, je trouve. Et voilà, ça peut être une coïncidence, hein, mais selon moi, il y a encore d'autres trucs à découvrir, tout en sachant qu'il reste encore deux
Pour ton plus grand bonheur. Je propose qu'on consacre les 5 dernières minutes à faire nos prédictions pour la suite, parce
Allez,
qu'après, on
oui.
pourrait reprendre ce bout-là quand
On n'a
il
même pas
va
parlé de
sortir.
mariage, putain.
Mais ça va nous permettre de faire une transition
Ok.
aussi sur les plots twists de fin,
On
parce
reprendra ce petit
que...
morceau où j'ai dit, on parle même pas de mariage et ce sera l'introduction du prochain.
Exactement. Non, mais je pense que c'est intéressant d'utiliser la fin pour faire des prédictions sur la suite, et ça nous permet de parler aussi du plot twist final de Onyx Storm qui
Ouais.
est très différent des deux premiers. Dans les deux premiers, on a des plot twists qui sont à vue choquantes, donc il y a toujours des trucs de ouf qui se passent à la fin
Mais à
du
chaque
livre.
fois, c'est Xaidon qui fait de la merde.
Clairement. Clairement.
Pas une, pas deux, trois.
Oui, mais je trouve que là où c'est différent dans le plot twist final du troisième, c'est que dans les deux premiers, enfin, on les voit pas venir et ils sont faits pour qu'on les voit pas venir. Dans le troisième, tout le long, tu sais comment ça se termine. Franchement, Rebecca Yarros, elle le fait pas par hasard, elle nous hint tout le long que ça va se terminer comme ça se termine comme ça, on n'est pas du tout surpris. Par contre, elle nous fait vraiment elle utilise vraiment un autre sort narratif qui est de nous laisser faire un milliard de théories diverses et variées sur ce qui s'est passé à la fin. Parce que la fin, elle est déroutante, en vrai. Donc, je te propose qu'on utilise cette fin très déroutante pour décider de faire un petit peu nos. Parce qu'en plus, on adore faire ça, des prévisions pour
Pour la
là
suite.
où va aller le 4, parce que c'est très mystérieux pour le coup. Donc, pour vous donner le contexte, à la
Vas-y.
fin du 3, on a Xaden qui, tout le long du livre, a essayé de résister à l'appel des venins et qui finalement n'y résiste plus parce que sa seule ressource pour sauver la situation, c'est de channel une dernière fois. Et on sait que ça va faire de lui un pleinement apprenti venin et qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur sa dernière. Je sais pas comment ça va être, c'est vraiment traduit, ce fait de
Canaliser, je
canaliser
pense
de
en
la
gros.
terre. Donc, il devient apprenti. Ça se termine là-dessus. Ça se termine sur deux informations, sur le fait qu'il y a de toute évidence quelqu'un d'autre qui a fait appel au pouvoir de la terre. Parce que il a un frère qui n'est pas nommé, et on termine le livre, ce qu'elle ne fait jamais, sur plusieurs POV. Donc on a le POV de Rhiannon, on a le POV de
Imogène.
Imogen, et pour moi, ils servent clairement à nous donner les localisations d'absolument tout le monde durant la dernière bataille. Donc on a Rhiannon qui est avec,
Sawyer Riddock.
et voilà.
Quatre.
Regarde, elle est où?
Quatre. 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 Si, elle est avec Rhiannon.
Voilà.
crois.
Ok.
Non, alors attendez, parce qu'il y a, il y a une merde, ok? Mon cerveau, à chaque fois, il y a 4 et il y a 4, ok? Il y a 4 avec un T et il y a 4 avec un H. 4 avec un H, c'est le dragon.
Oui, c'est
Et
vrai.
du coup,
Trop chiant.
je sais plus si c'est le dragon qu'elle mentionne ou si c'est 4-4, mais bon, voilà.
Donc, il y a
Merde.
eux. Il y a Imogen qui est avec Garrick
Et Queen.
et Quinn qui meurent.
Rip. Ça aussi, hein. De la même manière que Traeger, en plus, elle l'a fait, hein, le long
Ouais,
du
t'as
livre.
l'eau, j'avoue.
Ouais. En plus, quand Traeger est mort, je me suis dit à ce moment-là, bah ça c'est le deuxième truc que j'ai préchoté, c'était la mort de Queen. Et quand on est passé des points de vue Imogen, j'ai fait, allez, tel moment, let's go. J'étais surprise qu'elle soit pas morte avant, du coup.
Donc voilà, et on a Xaden qui est devenu un apprenti, et ensuite on a Violette qui est avec
Théophanie,
Théophanie
qui est une sage.
et Ridoc qui fait des alertes, qui fait un non c'est qui fait un aller-retour non c'est Body qui fait un
Buddy,
aller-retour.
Buddy, Buddy. Oui, parce que du coup, à la fin, elle est avec Buddy. Buddy veut la protéger et elle lui dit de se barrer parce qu'ils s'y arriveront pas. On est dans les temps.
On est dans les temps.
parce que Buddy n'a pas le pouvoir, en fait, du tout de faire face, en fait, à Théophanie. Donc, elle lui dit de se barrer. Et il y a une petite interaction, quand même, à ce moment-là, avec Théophanie, entre Théophanie et Buddy. Et je la trouve un peu su suspecte.
Donc toi, la théorie, parce que du coup, moi, ma théorie. Moi, mes plusieurs
Vas-y,
théories sur
vas-y,
la suite,
vas-y,
c'est
vas-y,
que
vas-y.
pour moi, il y a un truc très bizarre qu'on a, il y a un postulat très bizarre qu'on a accepté depuis le début, dont on n'a pas du tout parlé dans ce podcast,
Oui, c'est vrai.
mais c'est que Brennan, il a ressuscité au début du livre, c'est-à-dire que dans tout le 1, on nous dit qu'il est mort, ensuite finalement il a ressuscité, on nous dit qu'il a un truc dans la paume de sa main, une rune dans la paume de sa main,
Oui,
quand même, voilà. Là où, par
une
exemple,
cicatrice de rune,
on
ouais.
Chanel. Et on a vraiment un peu accepté que le type il est revenu à la vie, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, et voilà, c'est ça. Donc pour moi, et dans le 3, on nous donne l'élément d'information supplémentaire qui est que si les personnes elles ont suffisamment gradé et elles sont suffisamment puissantes, ils sont pas possible de les ressentir par les autres venins. Donc il y a vraiment une possibilité qu'il y ait des venins que Xaden ne peut pas ressentir, parce que sinon il peut ressentir les venins. Donc on pourrait partir du principe que Brennan n'est pas venin, vu que sinon Xaden l'aurait ressenti. Mais étant donné que Brennan, a priori pour moi, est devenu venin bien avant Xaden, il a beaucoup plus de pouvoir, et donc Xaden ne peut pas le ressentir. Donc pour moi, Brennan, il est clairement venin. Et vraiment, à la fin, je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que quand même, on a un petit peu accepté ça très très vite, que tous ces éléments d'information sur Brennan, sans du tout les
Et
questionner.
les conditions de la mort de Brennan sont aussi un peu étranges parce qu'on sait qu'il était censé être mort avec son lover, qu'il a essayé de le ramener à la vie, mais qu'il n'a pas réussi. Mais on ne sait pas s'il a essayé ou pas de Chanel.
Et il y a une vraie question autour de ce qui s'est passé sur son lover aussi, parce que Tern refuse catégoriquement d'en discuter avec Violette. Parce que son lover
Oui.
précédent, c'était le précédent rider de Tern. Et on ne sait pas s'il refuse d'en parler parce que c'est trop douloureux ou parce qu'il a honte de quelque chose. Peut-être par exemple que ce gars est devenu venin et est de l'autre côté en ce moment même. Nous ne savons pas.
C'est une
C'est
possibilité.
une
C'est aussi
possibilité.
peut-être pour ça que du coup, Tern a juré sur sa vie que Violette serait sa dernière rider.
Par exemple.
Parce que juste la
Bon,
perte
bah
d'un,
oui.
c'est quand même léger.
En tout cas,
Mais
on verra. Mais pour moi, il y a quelque chose par là. Ensuite, pour moi, donc on a eu l'information qu'il y a quelqu'un qui est devenu venin en cours de route dans cette bataille. On ne sait pas qui.
on a l'information que c'est un frère.
Voilà.
Parce que les Vénins l'appellent le frère.
Oui, mais ça pourrait être deux trucs, parce que ça pourrait ou être effectivement le frère de Xaden qui serait Body,
Body.
et peut-être que c'est ça qu'on veut nous hinter, ou alors on peut dire que tous les venins s'appellent frères entre eux, parce que je me demande
C'est
si Jacques,
possible.
à un moment donné, il n'appelle pas Xaden son frère aussi. Et du coup, Ou tous les venins qui sont liés au même sage, là.
J'ai eu un doute quand, justement, elle tue Jack, parce que je me suis dit, OK, est-ce que Brevin, qui est un autre, du coup, sage, le considère comme le frère, et c'est donc lui qu'on appelait frère. Mais comme elle le tue, à ce moment-là, j'étais vraiment pas sûre que c'est de lui dont on parlait, ou si on parle d'un autre frère, parce que du coup, effectivement, ils ne sont pas là. Et en même temps, à ce moment-là, il y a Ebody et Brennan, mais elle dit que c'est pas le bon. Donc, et maintenant que Xehanon et Violette sont mariés, Brennan est le frère de Xehanon, par alliance, hein, mais du coup, Naolin, c'est le frère de Violette. Par alliance.
Ah, intéressant. Ouh là là, trop de théories.
Mais enfin, voilà.
Et moi, je reste quand même convaincue. Moi, je suis navrée.
C'est Brennan, ok.
Je reste sûre et certaine de mon coup. Il y a une histoire avec Liam. Bordel de cul. C'est pas possible que toutes ces scènes, elles existent sans raison. Rebecca Yarros, elle nous met sur la piste de quelque chose. Donc, moi, je reste convaincue qu'il y a Liam qui va revenir dans le 4.
On a un autre indice aussi sur le brodeur, c'est que c'est quelqu'un qui fait battre le cœur de Violette. Enfin, c'est quelqu'un qui fait battre le cœur de Violette ou le cœur de Violette, sous-entendu elle. Sauf qu'on sait que c'est pas elle. Elle a déjà réussi à résister à Pat Chanel. Elle est incroyable, bien plus que Xehanon. Il y a ces trucs-là, en fait, qui me trigger parce que c'est forcément quelqu'un qui est proche d'elle. Et donc, soit c'est Liam parce qu'on n'a pas récupéré son corps.
Ouais, c'est
on n'a pas récupéré son corps. On sait que les vénins, ils veulent Andarna pour une raison ou une autre. Et Liam, à ce moment-là, c'était la seule personne qui comptait énormément pour Violette quand il est mort. Et donc, potentiellement, ils ont pu le ramener à la vie... comme ça a été le cas avec Jack. Et voilà. Et je l'appelle Jack, c'est à cause de... Il était une fois en Kirby, mais en fait, c'est Jack.
Et ouais, et alors vraiment, deux personnages qu'on n'a pas le droit de comparer, parce que sinon, ça va être compliqué.
Et c'est fou parce que... Oui, je sais pas. En fait, cette fin, elle est trop bien faite, et en plus, moi, je suis passée à côté de ce truc, parce que quand on avait point de vue Ryan et pas un point de vue Imogen, moi, j'étais vraiment là, genre, oh putain, ça sert à rien, ces passages. Et je dis ça à Coralie, Coralie me dit, non, mais en fait, moi, je pense que... Ah putain. Oui.
Oui, pour moi, ils servent à nous donner des indications sur où tout le monde se trouve.
C'est ça. Et donc, je sais pas si on l'a dit dans l'intro ou pas, mais si je suis aussi perdue avec cette fin, c'est parce que j'ai fini le livre ce matin. Donc c'est très frais, j'ai pas encore beaucoup réfléchi dessus, etc. Donc c'est très frais, et on trouvait ça cool aussi de faire un point de vue. Parce que tu as terminé quand ta lecture?
Moi, il y a deux bonnes semaines.
Voilà.
Donc j'ai eu le temps un petit peu de la macérer,
voilà.
Et puis de faire un petit peu des théories pour la suite, là où tu as eu moins de temps.
Moi, je suis bien à chaud, là, du coup.
Ouais.
Mais c'est vrai que je suis tellement à chaud que j'ai envie de le frapper, ce que j'ai donné encore une fois. Vraiment, mais à chaque fois, c'est...
Moi, ça m'a pas du tout agacé parce qu'en fait, c'est tellement tout le long de l'histoire, on sait qu'on va là.
C'est là
que quand on est allé là, j'étais là. Mais c'était sûr qu'on allait là.
C'est un hypocrite parce que le gars, il prépare tout. Il est là. Oui, Body, si jamais il m'arrive un truc, t'es là pour ça. Et puis ensuite, eh ben non. Parce qu'en fait, vas-y, et si je mariais Violette et que je lui donnais une responsabilité que je lui ai pas demandé si elle voulait.
Ouais.
Ça m'a agacé. Parce qu'il aurait pu.
Mais il la protège quelque part aussi à côté. Parce que tant qu'elle est. Ça veut dire qu'elle n'est pas sous les ordres de Athos. Athos, là. Donc en vrai, il l'a quand même sacrément protégée. Hein, parce que sinon, elle était dans la mouise sans lui. Hein.
Je suis biaisée parce que je l'aime pas. c'est dur. Je peux pas accepter. Non, de toute manière, c'est à cause de lui que Liam est mort. Donc je pourrais jamais accepter. J'accepterai jamais cet homme dans...
Donc, on fait un petit récap. Ouais. Moi, mes théories, c'est que Brennan, il est venin. C'est que Liam, il n'est pas mort. Et c'est que je pense que ce sera Bodhi ou Garrick parce que Garrick peut aussi être considéré comme un frère de Xaden si on prend le côté émotionnel. Donc c'est Bodhi ou Garrick, le deuxième venin, celui qui a Chanel au moment de la bataille. Je pense que Dane et Sloane vont avoir une romance. Et...
Alors, c'est soit Dany et Sloane, soit Harry et Sloane.
Et donc, je pense que Dane et Sloane vont être ensemble et c'est à peu près tout. Et toi, t'as des trucs en plus? T'es d'accord avec
Euh,
certaines de
je
mes théories?
suis, je suis d'accord. Je sais pas par. Alors, je suis pas d'accord pour Brennan. Je pense pas qu'il est vénin. Vénine, appelez ça comme vous voulez. Je pense pas. Mais tu me mets le doute. Mais je suis pas convaincue,
Mais
on
c'est
va
bien, il
dire.
faut qu'il y
Je
ait un autre
suis pas
positionnement que le
convaincue.
mien.
Maintenant, pour le reste, moi, je suis là aujourd'hui, je suis paumée. Je suis archi paumée. Parce que j'aimerais vraiment que Liam soit pas mort et qu'elle continue de ressusciter les gens comme Mira, enfin, les gens importants. Parce que vraiment, hein, si... bon, la mère, elle n'est pas ressuscitée. Mais le père non plus. Bon, écoutez, il faut bien que les morts restent morts à un moment ou à un autre, tu
Elle est
vois.
pas vraiment morte, Mira.
Elle n'est pas morte.
Elle s'est fait
Mais.
blesser très grièvement, on a réussi à la mettre.
Enfin, en fait, c'est à la fin du chapitre, on comprend on lui coupe la gorge et elle pisse le sang de manière à mourir. Elle était au bord
Oui.
de la mort et elle se fait sauver miraculeusement.
Sympa.
Merci, Eric.
Qui
Vraiment,
est un venin.
le prince. Arrête!
Non,
Il y a le truc de la trace des mains qui est mentionné, qu'on a mentionné dans la cuisine tout à l'heure, mais qu'on n'a pas dit ici. Mais en tout cas, il y a clairement quelque chose avec Brennan, mais je suis pas sûre que ce soit un venin. J'espère. Et Liam, j'aimerais vraiment qu'il soit vivant, mais je nourris très peu d'espoir à ce sujet-là, parce que c'est un levier tellement puissant de... Ça a tellement marqué les décisions d'après de Violette que ça serait vraiment cruel à ce stade-là. Aujourd'hui, de le faire revenir, ça serait vraiment trop cruel. Mais du coup, c'est peut-être ce qu'elle va faire.
Elle est un peu cruelle, Rebecca Yarros, quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais elle nous a fait deux romances qu'elle a butées droit derrière dans cette histoire, quand
En fait, c'est une tueuse de romance. Elle écrit pas de la romance. Elle tue les romances
hein.
qu'elle commence à écrire. Regarde, dans Violet, si tu les mets tous bout à bout, il n'y a personne qui est heureux amoureusement. Vraiment. Vraiment. Mais voilà, pour moi, le seul truc que j'arrive à voir, c'est potentiellement une relation Mira-Drake. Je suis d'accord avec ça. Très clairement, pour moi, ça va se passer. Parce que ça commence toujours avec un coup de pied dans les couilles.
C'est les
C'est
meilleures
la
histoires
bonne
d'amour.
solution. Sinon, je suis du père. Parce qu'en plus, maintenant, il y a aussi tout le reste. Enfin, du continent, du monde en fait, à qui on est allé demander de l'aide et qui vont aider ou qui vont pas aider. Il y a la septième race de dragons. Qui va être là, qui va pas être là? On sait que Andarna, elle s'est potentiellement reconnectée à Violette à la fin. Ou alors, Andarna est morte et Violette, du coup, a parlé avec elle via son troisième signet, comme elle l'a fait avec Liam. Ça peut être une de mes théories. Mais sinon, je n'en ai aucune idée.
Bon, c'est déjà pas mal, hein?
Voilà. Mais voilà, soit Andarna, elle est morte et elle s'est fait tuer par ses collègues dragons pas cool, soit elle va miraculeusement tous les ramener au moment opportun dans le top 5.
Ouais,
Que je
on
doute.
espère, on espère.
Déjà, là où on en est, je suis en mode, il y a un cinquième tome, on est sûr de cette information. Parce que c'est un peu compliqué.
Oui, il y a 5 tomes, ça c'est sûr. En tout cas, elle a réfléchi pour faire 5 tomes.
Donc le cadre va être très politique.
Le 4 va probablement être très politique. Je pense que le 4 va ressembler au 3, à vrai dire. Encore plus politique parce que
Bah là,
pour
ça
le
va
coup,
vraiment être très
Xaden et
politique.
Violette vont plus du tout être ensemble.
Oui, bah en fait, ce troisième tome, il était politique dans le sens où il y avait c'était la moitié, c'est un voyage diplomatique. Mais Violette faisait pas nécessairement de la politique.
Oui, là, elle va être obligée.
Là, elle sera obligée de le faire.
Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça implique le fait qu'il soit devenu pleinement venin, Xadon? Qu'est-ce que ça implique pour son dragon?
C'est vrai. Qu'est-ce que ça implique pour son
Parce qu'on
dragon?
sait que Tern et Sgaël ne peuvent pas être séparés plus de 3 jours.
Dans les
On
îles,
sait qu'ils peuvent
on...
garder leur dragon.
Oui.
Parce qu'il y a une vraie question qui est posée autour de ça. Et Xadon, à un moment donné, on lui promet qu'il va pouvoir garder son dragon. En gros, je crois
Oui,
qu'il
oui.
a un peu le choix entre tuer son dragon ou garder son dragon. Donc ça veut dire qu'a priori, elle se barre avec lui. Mais qu'est-ce que ça va faire à la relation entre Tern et Sgaël, du coup? Qu'est-ce qui va se passer entre, en fait, cette espèce de lien qu'ils ont les quatre ensemble à travers le fait que Sgaël et Tern sont mates? Et du coup, qu'ils peuvent tous se parler dans la tête, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Moi, je suis très curieuse parce que s'ils peuvent trop se parler. Enfin, ah, ça, j'ai pas de réponse, juste, je me pose la question.
À un moment, on nous dit aussi que les vénins, c'est comme ils sont morts, quoi. Concrètement, leur âme décède.
Ouais.
C'est ce qu'on nous dit. Donc, potentiellement, Sgaïl, elle est aussi libérée entre guillemets de Xédon. C'est pas forcément que dans un sens Xédon qui peut se libérer de Sgaïl. C'est potentiellement bilatéral. Et donc, Sgaïl pourrait soit du coup revenir du côté de Violette et soutenir Violette Eterne en tant que standalone. Ou prendre un nouveau rider qui viendra du coup peut-être
Ouais, non, ça, elle
s'incruster.
fera jamais.
Ouais, c'est vrai. Mais on ne sait pas, hein. Peut-être qu'il
Non.
y a quelqu'un qui est...
Les
Qui est...
relations avec les dragons sont trop importantes. T'as vu ce qui se passe quand Adarna elle rompt sa relation?
Oui. J'avais pas pensé à ça. Horrible. Ouais, je suis un peu perdue.
On sait pas. Mais ça, vraiment, je pense
Je
que
suis
très
un peu
mystérieux. On
perdue.
va voir, ça
Par
va.
contre, je l'attends au tournant pour la
Ouais.
politique. J'aime
Ouais.
beaucoup la fantaisie, la politique surtout, et tout ça. Et donc là, vraiment, j'attends. Mais j'espère que ce ne sera pas aussi difficile à lire. Parce que j'ai vraiment trouvé Onyx Storm difficile à lire. Beaucoup plus que Force Wing et Iron Flame. Alors peut-être que c'est toute cette dose diplomatique qui nous arrive d'un coup dans la gueule qui a fait que c'était un peu dur à lire. Mais j'aime tellement ça de base que ça m'a un peu surprise. Parce que c'était vraiment dur. Pas long, mais
Ouais,
dur, ouais.
fallait suivre quoi,
Ouais, c'est ça.
c'était compliqué des fois à suivre. Je pense que là, on nous a donné beaucoup d'éléments politiques, donc maintenant, il va falloir qu'elle les utilise.
Ouais.
Et ça, c'est sûr qu'on va l'attendre au tournant là-dessus,
Je me
quoi.
demande vraiment c'est quoi les intrigues qu'elle va nous placer encore là.
Bon, eh ben, on a réussi à faire, je pense, on a 45 bonnes minutes de podcast. On va s'arrêter là.
Ouais, si on pourrait continuer des heures.
C'est clair. Vous l'aurez fait le constat qu'on a essayé de wrap up il y a bien 10 minutes après la
Il
vidéo.
y en a pareil.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec
Lecture des lunes.
Et l'Aurélie Fantaisie.